Ces propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter ma curiosité. Les gens qui sont possédés par une seule idée m'ont toujours intrigué, car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens qui vivent solitaires en apparence construisent, avec leurs matériaux particuliers et à la manière des termites, des mondes en raccourci d'un caractère tout à fait remarquable. Aussi déclarai-je mon intention d'observer de près ce singulier spécimen de développement intellectuel unilatéral et de bien employer à cet effet les 12 jours de voyage qui nous séparaient de Buenos Aires. « Vous avez peu de chances de parvenir à vos fins, » me prévint mon ami. « Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Sentovic le moindre renseignement psychologique. » Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple, il évite toute conversation, hormis celle des compatriotes de son espèce qu'il rencontre dans les petites auberges où il fréquente. Sitôt qu'il flaire un homme instruit, il rentre dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut se vanter de l'avoir entendu dire une sottise ou d'avoir mesuré l'étendue de son ignorance. L'expérience devait justifier ses paroles. Pendant les premiers jours du voyage, force me fut de reconnaître qu'il était tout à fait impossible d'approcher Sentovic, à moins de se montrer d'une grossière indiscrétion qui n'était ni de mon goût ni dans mes habitudes. Il se promenait souvent sur le pont, mais c'était toujours d'un air absorbé et farouche, les mains croisées derrière le dos, dans l'attitude où un tableau bien connu représente Napoléon. Au surplus, il quittait les lieux avec tant de brusquerie et de précipitation qu'il eût fallu le suivre au trot pour pouvoir lui adresser la parole. On ne le voyait ni au bar, ni au fumoir, ni dans les salons. Le steward me confia qu'il passait le plus clair de son temps dans sa cabine à s'entraîner devant un grand échiquier. 3 jours suffirent à me convaincre que sa tactique défensive était plus forte que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion du jeu d'échecs, et plus je m'efforçais de me représenter celui-ci, moins j'y parvenais. Comment se figurer un cerveau exclusivement occupé sa vie durant d'une surface composée de 64 cases noires et blanches? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement de l'appeler un jeu? N'est-ce pas aussi une science, un art ou quelque chose qui est suspendu entre l'un et l'autre, comme le cercueil de Mahomet entre ciel et terre? L'origine du jeu d'échecs se perd dans la nuit des temps, et cependant, il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination du joueur. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant, ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou que tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps et dont personne ne sait quel dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Où commence-t-il? Où finit-il? Un enfant peut-on apprendre les règles, un ignorant s'y essayer, y acquérir une maîtrise d'un genre unique s'il a reçu ce don spécial? La patience et la technique s'y joignent à une vue pénétrante des choses pour faire des trouvailles comme on fait en mathématiques, en poésie, en musique. Autrefois, la passion de la science eut peut-être poussé un Gall à disséquer le cerveau d'un champion d'échecs de cette espèce pour voir si sa substance grise ne présentait pas une circonvolution particulière, une manière de muscle ou de bosse caractéristique qui la distingua des autres. Combien l'eût intéressé ce cas d'un homme en qui le don spécifique du jeu d'échecs s'alliait à une paresse intellectuelle totale, comme un filon d'or court dans une roche brute? Certes, je comprenais, en principe, qu'un jeu si particulier, si génial, pût susciter des matadors. Mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, uniquement occupée à faire avancer et reculer 32 pièces sur des carreaux noirs et blancs, engageant dans ce va-et-vient toute la gloire de sa vie? Comment s'imaginer un homme qui considère comme un exploit le fait d'ouvrir le jeu avec le cavalier plutôt qu'avec un autre pion, et qui inscrit sa pauvre petite part d'immortalité au coin d'un livre consacré aux échecs. Comment se figurer enfin un homme doué d'intelligence, qui puisse, sans devenir fou, et pendant 10, 20, 30, 40 ans, tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule, acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette. Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou, si l'on préfère, un fou aussi énigmatique se trouvait pour la première fois tout près de moi, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, je me voyais refuser la possibilité de l'approcher, moi qui ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal, ou bien si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse. Finalement, je me souvins que le chasseur attire le gibier en imitant son cri à la saison des amours. C'est en jouant aux échecs qu'assurément on attire le mieux l'attention d'un joueur d'échecs. À vrai dire, je n'ai jamais été un sérieux artiste dans ce domaine car je ne joue à ce jeu que pour mon plaisir. Je ne m'assieds devant un échiquier que pour me détendre l'esprit. Je joue au sens strict du mot, je me distrais. En outre, aux échecs, comme en amour, il faut un partenaire. Et je ne savais s'il y avait à bord d'autres amateurs que ma femme et moi. Pour les attirer, s'ils s'en trouvaient, nous nous installâmes au fumoir devant un échiquier et nous nous mîmes à jouer. Nous n'avions pas fait 6 coups qu'un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder. Enfin, quelqu'un me pria de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait MacConnor et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée, les dents solides, il devait en partie la riche coloration de son teint à un goût prononcé pour le whisky. Sa surprenante largeur d'épaule ne laissait pas de se faire sentir jusque dans son jeu, car Mr. MacConnor était de cette espèce d'hommes qui ont réussi et sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils considèrent comme une humiliation personnelle de perdre, fût-ce une inoffensive partie d'échecs. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses réels succès, ce self-made man massif était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition comme un désordre et presque comme une injure. Il perdit la première partie de fort mauvaise grâce et se mit à expliquer avec une volubile autorité que sa défaite ne venait que d'un instant de distraction. À la troisième, il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Cet acharnement m'amusa d'abord, puis je n'y vis plus qu'une circonstance secondaire qui ne gênait en rien mon projet. Le troisième jour, mon stratagème réussit, mais à moitié seulement. Sentovic nous avait-il aperçu par la fenêtre en se promenant sur le pont, ou bien honorait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là ? Toujours est-il que nous le vîmes faire quelques pas involontaires dans notre direction et jeter à bonne distance un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. MacConnor était justement en train de déplacer un pion. Hélas, ce seul coup suffit à montrer au maître combien nous étions peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse sans même le feuilleter un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Sentovic s'écarta de notre table et quitta le fumoir. Pesé et trouvé trop léger, me dis-je en moi-même, un peu froissé par ce regard méprisant. Et donnant cours à ma mauvaise humeur, je dis à MacConnor, « Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. » « Quel maître ?» Je lui expliquai que ce monsieur qui venait de passer près de nous en jetant sur notre jeu un regard désapprobateur était Sentovic, le champion mondial du jeu d'échecs. « Eh bien, ajoutai-je, il ne nous reste qu'à supporter cet affront et à nous accommoder de son mépris sans en faire une maladie. Les pauvres bougres doivent faire leur cuisine à l'eau. » Mais ces paroles prononcées avec détachement eurent sur MacConnor un effet surprenant. Il se montra fort excité et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. Il déclara qu'il n'avait pas eu la moindre idée que Saint-Ovic fût à bord et qu'il voulait absolument jouer avec lui, qu'il n'avait encore jamais joué contre un pareil champion, sauf une fois avec 40 autres, lors d'une partie simultanée qui avait été passionnante et qu'il avait du reste presque gagnée. Il me demanda si je connaissais l'illustre personnage. Comme je répondais que non, il suggéra que je pourrais l'aborder et le prier de se joindre à nous. Je refusai, alléguant que Saint-Ovic n'était pas, à ma connaissance, très désireux de se faire de nouvelles relations. D'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion mondial et les joueurs de troisième classe que nous étions ? J'avoue que je n'aurais pas dû employer cette expression de joueur de troisième classe devant un homme aussi vaniteux que McConnor. Il se rejeta en arrière, déclara sèchement que pour sa part, il ne croyait pas Saint-Ovic capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman et qu'il allait s'en occuper. Sitôt que je lui eus à sa requête brièvement décrit la personne du champion, il s'élança impétueusement à sa recherche sur le pont. Je m'aperçus une fois de plus qu'on ne pouvait guère retenir le propriétaire de ses remarquables épaules quand il avait un projet en tête, et j'attendis avec un peu d'anxiété. Au bout de 10 minutes, McConnor revint. Il ne paraissait pas beaucoup plus calme. « Eh bien ?» demandai-je. « Vous aviez raison, » me répondit-il, l'air vexé. « Ce monsieur n'est pas aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné mes qualités. Il ne m'a même pas tendu la main. » Je me suis forcé alors de lui expliquer combien, nous tous, à bord, serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piquet, me répondit qu'il regrettait, mais qu'il s'était engagé par contrat à ne jamais jouer durant toute sa tournée sans toucher d'honoraire. Il se voyait donc obligé de demander au minimum $250 par partie. Je me mis à rire. Je n'aurais jamais pensé que pousser des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fût une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. Mais McConnor garda tout son sérieux. « La partie aura lieu demain après-midi à 3 heures dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plate couture. »« Quoi ? Vous avez accepté ces conditions ? » m'écriai-je consterné. « Pourquoi pas ? C'est son métier. » Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouvât un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher une dent gratuitement. Saint-Ovic a bien raison. Les gens vraiment capables ont toujours su faire leurs affaires. Et quant à moi, j'estime que plus un marché est clair, mieux il vaut. Je préfère payer plutôt que de compter sur les faveurs du sieur Saint-Ovic et d'être obligé de le remercier pour finir. Après tout, à mon club, il m'est arrivé déjà de perdre plus de $250 en un soir, et cela sans avoir le plaisir de jouer contre un champion mondial. Pour un joueur de troisième classe, il n'y a pas de honte à être battu par un Saint-Ovic. Décidément, l'amour-propre de McConnor avait été profondément blessé par cette innocente expression de « joueur de troisième classe ». Mais puisqu'il était résolu à faire les frais de ce coûteux plaisir, je n'avais rien à objecter à l'entreprise. Elle allait enfin me permettre de voir de plus près le singulier personnage qui excitait ma curiosité. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les 4 ou 5 joueurs d'échecs que nous connaissions à bord, et pour être aussi tranquille que possible, le lendemain nous fîmes réserver toutes les tables voisines de la nôtre.